L'un dans l'autre, l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine d'info locale, L'un dans l'autre. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous.
On s'intéresse aujourd'hui aux politiques publiques de solidarité sur notre territoire. Car derrière des dispositifs d'aide, des actions sociales ou des programmes d'accompagnement, il y a tout un réseau d'acteurs, collectivités locales, associations et services de l'État. Parmi eux, la DETS ou Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. La DETS coordonne le pacte local des solidarités et agit au niveau du département, notamment sur les questions d'insertion, de lutte contre la pauvreté, d'accès au droit à la santé ou encore la mobilité. Dans l'Ain, le pacte local des solidarités entre dans sa troisième année d'action collective. Son objectif, mieux coordonner les acteurs et soutenir les initiatives locales auprès des publics les plus fragiles. Si en 2025, l'axe de la santé et de la santé mentale spécifiquement a pu être renforcé, en 2026, la priorité est donnée à la levée des freins à l'emploi, notamment en lien avec la réforme de la loi pour le plein emploi qui court depuis décembre 2023. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Comment ce pacte local des solidarités se traduit-il sur le terrain pour les habitants et pour les structures qui les accompagnent ? Pour comprendre, nous avons rencontré le directeur de la DETS et la chargée de mission au service de réduction des inégalités.
Qu'on écoute juste après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves. Une nouvelle sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l'Ain, nommée.
Elle s'appelle Alice Chauchera et elle a officiellement pris ses fonctions début mars. Depuis sa sortie de l'Institut national du service public en octobre 2024, elle a rempli plusieurs fonctions, notamment celle d'adjointe au chef du bureau de l'environnement sonore et des impacts territoriaux au sein du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Elle était en charge de la cartographie du bruit, contribuant à la définition des cadres juridiques et techniques des nuisances sonores aériennes.
Auparavant, elle a aussi été collaboratrice parlementaire auprès d'élus locaux, puis en cabinet ministériel comme chargée de mission d'affaires européennes.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions dans l'Ain, elle s'occupe des questions de sécurité publique, civile et routière, de la gestion des crises et des situations d'urgence, ainsi que du suivi des affaires politiques. Alice Chauchera succède à Marianne Tessa, nommée chef adjointe de cabinet du Premier ministre.
Nouvelle résidence sociale pour des logements à courte durée.
La résidence sociale Bernadette Constant, aménagée dans les locaux de l'ancien hôtel Kyriade, rue des Dîmes à Bourg-en-Bresse, a été inaugurée par l'association Tremplin. Les logements proposés sont des appartements de type T1, équipés et meublés, qui peuvent être loués pour quelques mois. L'objectif est d'aider des personnes en reconversion professionnelle ou en formation, des stagiaires ou encore des jeunes salariés en CDD à pouvoir se loger. 40 appartements sont proposés, dont 24 au grand public. Les autres sont réservés au SIAO, le service intégré d'accueil et d'orientation. L'association Tremplin qui porte ce projet garantit l'autonomie, la sécurité, la dignité des locataires. Des espaces collectifs ont aussi été pensés, comme une laverie et un parking. Les loyers mensuels sont de 510 euros, avec possibilité d'obtenir l'aide au logement. L'équipe du pôle logement de l'association Tremplin est installée au troisième étage de ce bâtiment, ce qui permettra aux locataires qui le souhaitent de bénéficier d'un accompagnement social.
L'info locale sur Radio B. Les élections municipales approchent.
Le premier tour est prévu le 15 mars prochain et le deuxième tour aura lieu le 22 mars. Cette élection permet d'élire le maire de votre commune pour un mandat de 6 ans ainsi que ses conseillers municipaux. Les listes présentées doivent respecter la parité et le nombre de conseillers municipaux dépend de la taille de votre commune.
Mais quelles sont les missions des conseillers municipaux et du maire ?
Cela peut être l'entretien des locaux, la restauration scolaire et les activités périscolaires, Dans les écoles maternelles et primaires, le maire délivre aussi les permis de construire. Il est aussi membre des commissions d'attribution de logements sociaux. Le maire est responsable de la sécurité publique, locale, via la police municipale. Concernant les équipements et services de proximité, il supervise les bibliothèques, centres culturels, crèches, voiries, espaces verts ou encore collecte de déchets.
Et quel est le mode de scrutin pour ces élections ?
Il s'agit d'un scrutin proportionnel. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes de candidats en fonction du nombre de voix obtenues par chacune. Si une liste obtient la majorité absolue, elle reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les listes ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés sont éliminées. Et les autres sièges sont répartis entre les listes restantes en fonction du nombre de suffrages qu'elles ont obtenus. Si aucune liste n'obtient la majorité absolue, un second tour est organisé. Seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés.
L'un dans l'autre, l'interview. Nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Paternoster et de Barbara Pittner au sein de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités. Avec eux, on parle du Pacte local des Solidarités, un dispositif qui vise à mieux structurer les politiques publiques de lutte contre la précarité et la réduction des inégalités territoriales au niveau départemental. Ensemble, ils nous expliquent comment ce pacte se construit, quels sont ses axes prioritaires et grâce à qui il se déploie concrètement sur le terrain, au plus proche des publics. Madame Pittner et Monsieur Paternoster, bonjour. Pouvez-vous présenter rapidement vos missions à nos auditeurs, s'il vous plaît ?
Alors bonjour, je suis Olivier Paternoster, donc je suis le directeur de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Ain, donc mieux connu sous le nom de DETS, pour l'acronyme. Voilà, et la DETS pilote des missions en charge de l'insertion, de l'emploi, des solidarités et également de l'accompagnement des entreprises et de la politique d'inspection du travail.
Bonjour, donc Barbara Pittner, chargée de mission auprès de la DETS de l'Ain au service réduction des inégalités.
Alors le pacte local de solidarité signé en 2024, qu'est-ce que c'est exactement ?
Le pacte des solidarités, c'est la déclinaison territoriale de la stratégie de lutte contre la pauvreté qui est pilotée au niveau national. Et donc le pacte, en résumé, si je fais très, très concret, c'est l'ensemble des partenaires du département, l'État, l'ARS, l'éducation nationale, la CAF, la CPAM, qui se réunissent autour des enjeux de lutte contre la pauvreté et qui surtout se réunissent pour mieux répondre aux besoins des territoires pour lutter contre la pauvreté dans ses différentes composantes. Et...
Donc pour compléter, effectivement, on a également d'autres partenaires avec nous, engagés, donc France Travail et également la PJJ, qui ont été signataires sur l'année 2025.
Comment le pacte participe à la lutte contre la pauvreté dans le département ? Est-ce qu'il y a eu un état des lieux ?
Oui, on est parti d'un diagnostic du territoire. Déjà, le premier sujet, c'est que dans l'Ain, on est dans une situation qui, en termes de taux de pauvreté, est plutôt favorable par rapport à la moyenne nationale, puisqu'on est en 10,8% de taux de pauvreté au niveau départemental contre 14% au niveau national. Donc, même si on a une situation qui est plutôt favorable statistiquement, on voit des grandes disparités territoriales avec des territoires où les inégalités sont plus importantes, que ce soit sur le pays de Gex, dans des zones plus rurales aussi, dans l'agglomération de Bourg-en-Bresse, mais aussi sur Val-sur-Rhône, où là on constate qu'il y a des réalités de pauvreté qui sont vraiment présentes. Et donc on a travaillé dès 2023, fin 2023, à un diagnostic qui a permis d'identifier sur quatre axes, eh bien, les enjeux du territoire en matière de lutte contre la pauvreté. Ces quatre axes, ce sont la rupture des inégalités dès l'enfance. C'est vraiment comment on accompagne les familles, les enfants, les jeunes pour améliorer leur parcours que de l'enfance jusqu'à l'adolescence en passant par la jeunesse qui est dans une recherche d'insertion. Un axe autour de la levée des freins à l'emploi. que ce soit des freins à la mobilité, des freins à l'accès à la garde d'enfants, par exemple. Et puis, un troisième axe autour de la rupture de la grande exclusion et de l'accès aux droits, parce qu'on se rend compte aussi qu'on a beaucoup de populations qui ont une difficulté d'accès à leurs droits. Et puis enfin, un dernier axe qui est sur la transition écologique et solidaire, parce que la transition écologique et solidaire, elle doit profiter à tous. Donc, on agit aussi sur cet axe-là pour accompagner des initiatives territoriales. Je parlais de la mobilité, ça en fait partie, mais aussi pour une alimentation plus durable.
Est-ce que vous avez un exemple, peut-être un exemple par axe, pour illustrer votre propos ?
Alors, tout à fait, au niveau de l'axe 1, donc autour de la parentalité et de l'enfance, on a une action sur le répit parental qui est menée par la CAF et nous-mêmes. Et donc, du coup, en direction vraiment des familles qui se retrouveraient en difficulté face à la notion de la parentalité et d'être parent. Donc ça, c'est une des actions. Sur l'axe 2, nous avons l'action du salon de beauté solidaire, donc porté par le CEMIS, qui permet la prise en charge de publics hommes et femmes et de travailler autour justement de l'estime de soi et de la représentation que l'on a dans une société où l'apparence a une importance en vue de pouvoir retourner autour de l'insertion professionnelle. Sur l'axe 3, sur le territoire de Val-sur-Rhône, il y a une grosse action, la mise en place d'un tiers-lieu qui permet d'être mieux visible. Et également sur l'axe 4, on est en lien avec le porteur LUSI 01 qui permet toute l'année et sur l'ensemble du territoire de l'Ain d'aller sur des zones où il y a des difficultés pour pouvoir se déplacer. L'action de LUSI permet de pouvoir donner déjà de l'information sur l'existant en termes territorial autour de la mobilité, mais aussi de pouvoir trouver des solutions concrètes sur de la location de véhicules, sur de l'autopartage et autres solutions autour de la mobilité.
LUSI, c'est une association ?
C'est un regroupement d'associations intermédiaires sur le département de l'Ain.
Donc le pacte local de solidarité rassemble donc tous les acteurs dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont des acteurs institutionnels, qui a aussi des associations.
Il y a le côté donc institutionnel où ce sont les partenaires, on va dire, aux côtés de l'État qui se réunissent et qui contribuent à l'état des lieux et à permettre effectivement de faire un peu un diagnostic des manquements sur le territoire. On fait appel et on met en place des actions avec des porteurs de projets qui peuvent être effectivement des associations, des collectivités territoriales également.
Comment on fait pour vraiment quantifier et aller vers ces gens concrètement, qui en ont besoin et qui peut-être ne connaissent pas leurs besoins ?
L'intérêt du pacte, c'est déjà de partager sur la connaissance des différents publics qui sont la cible du pacte des solidarités, puisqu'on vise les publics qui sont dans une situation de précarité. Et vous l'avez vu, on embrasse l'ensemble des publics, que ce soit l'enfance, en passant par des publics qui sont bénéficiaires de minima sociaux. On n'a pas parlé aussi des travailleurs pauvres. Et au fond, votre question, c'est aussi de dire comment on les identifie. C'est grâce au réseau de partenaires. On a dit autour de la table, on a la CAF, donc la CAF accueille, accompagne des publics, France Travail c'est le cas aussi, la CPAM, la RS, donc on a tous les partenaires qui nous aident aussi à identifier les besoins des publics. Et puis derrière, l'intérêt du pacte, c'est effectivement qu'on travaille avec des acteurs de terrain, les associations qui, elles, mettent en œuvre les projets, vont vers les publics, et donc c'est tout ce réseau-là qui permet d'orienter, d'aller chercher les publics qui peuvent demain être les bénéficiaires. Toutes les actions, elles fonctionnent parce qu'il y a un réseau de partenaires qui oriente et puis des associations qui mettent en place concrètement les projets.
Pour compléter, on parlait de diagnostic dans un premier temps. Le diagnostic, il a été la base pour la mise en œuvre du pacte. Mais il n'y a pas de pacte s'il n'y a pas de partenaire et s'il n'y a pas effectivement une connaissance du territoire. La DET donc regroupe différents services qui justement gravitent autour de différents champs et nous permet d'échanger déjà en interne sur les problématiques existantes, que ce soit au niveau des territoires, territoires et aussi au niveau des publics, ce qui permet de faire remonter les besoins et d'aller au contact partenaire des EPCI qui, au niveau départemental, ont une connaissance encore plus fine des territoires et de ce fait d'être au plus près du diagnostic posé par territoire et des besoins des habitants.
Pour que ce soit très clair pour nos auditeurs et nos auditrices, la précarité, comment ça se définit exactement ? Vous avez parlé de travailleurs pauvres, donc on peut être travailleur et être précaire.
Parfois, la précarité, en fait, elle se manifeste aussi pour les travailleurs, par exemple, des contrats courts, des successions de contrats en intérim ou en CDD ou du temps partiel qui peut être parfois subi. Donc, en fait, la précarité, elle prend différentes formes et elle concerne finalement toute la population en fonction de sa situation à un instant T. Je parlais d'accès aux droits, d'accès au soutien à la parentalité, l'accès à l'emploi, mais aussi l'accès à la mobilité au fond. C'est ça la précarité, c'est toutes les ruptures d'accès aux droits et à la capacité à être autonome dans sa vie. Et le pacte, il essaye, il fait le maximum pour apporter des solutions. Des projets. J'ai pas vocation à dire que on arrive à couvrir tous les besoins de l'ensemble de la population parce que nos actions, elles sont ciblées, elles sont centrées sur des besoins des publics. D'ailleurs, on fait du lien avec un autre dispositif, c'est le dispositif Tapage pour des jeunes précaires de 16 à 25 ans qui cumulent des problématiques de santé et d'emploi en leur permettant d'être accompagnés pour les aider dans leurs problématiques de santé et en même temps d'aller toucher à de l'emploi et donc de retrouver confiance. Ça permet vraiment des parcours où les jeunes y retrouvent de la confiance et un projet d'insertion et donc l'idée étant qu'elles sortent de leur précarité. Donc c'est un peu ça l'idée du pacte, c'est de trouver sur chacun de ces axes des solutions pour sortir de la précarité les publics, quelle que soit leur situation. Voilà.
C'est tellement un prisme finalement, la précarité, qu'on imagine très bien qu'effectivement parfois on puisse être victime de cette précarité sans vraiment en avoir conscience.
C'est bien l'enjeu, c'est que la précarité elle est multiforme. On peut aussi associer précarité et rupture de droit, précarité et difficulté d'avoir une autonomie ou difficulté d'être accompagné. Au fond avec le pacte, on va aussi vers les publics qui sont dans ces situations-là pour ne pas les laisser sur le côté. Et c'est bien ça aussi, je pense, la plus-value. C'est que les dispositifs, grâce aux partenaires qui les mettent en œuvre, permettent d'aller chercher ces publics-là et de les orienter vers nos actions sur les quatre axes dont on a déjà discuté.
Merci à Olivier Paternoster et à Barbara Pittner. Vous l'aurez compris, le pacte local des solidarités est porté localement par les services de l'État en lien avec les collectivités, les associations et les acteurs de terrain. C'est donc une organisation collégiale qui permet, on l'espère, le recul de la précarité dans notre département. Pour en savoir plus sur ces dispositifs et les actions menées dans l'Ain, vous pouvez consulter les informations disponibles sur le site de la préfecture ou auprès des structures locales d'accompagnement, comme la CAF par exemple.
Et bien sûr, cette interview est à retrouver à l'écoute sur le site de votre radio locale.
Vous écoutez L'Ain dans l'Autre,
le mag d'info locale
sur Radio B. L'Ain dans l'Autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa.
Merci Perrine et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'info locale.
Restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
En ligne ou sur 90 FM. L'Ain dans l'Autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.